Vous écoutez
RMC.
8h et il fait frais, Géraldine.
Il fait frais, il pleut beaucoup après un mois d'avril très sec. On va vraiment surveiller ces cumuls de pluie dans les prochains jours. En particulier aujourd'hui entre le Languedoc et la Provence-Alpes-Côte d'Azur, c'est là qu'on va avoir les pluies les plus soutenues. Mais attention, parce qu'il va pleuvoir pratiquement sur tout le pays avec des averses parfois orageuses. Orages violents sur l'Occitanie en particulier où on attend de la grêle. C'est plus calme vers la Bretagne et les côtes de la Manche, on aura quand même de belles éclaircies. Alors frais, oui, pas forcément dès ce matin, mais cet après-midi, on passera souvent sous les normales de saison. Il fera souvent 16 à 20 degrés, on ira jusqu'à 24 degrés en Corse. Il faudra attendre jeudi pour retrouver un temps un plus calme et plus doux.
La météo sur RMC avec Magnolia.fr. Changez votre assurance de prêt et économisez sur Magnolia.fr, comparateur en assurance de prêt immobilier.
8h passées de 1 minute. Très belle journée à tous sur RMC.
RMC, Apolline Matin.
Et c'est l'heure du journal de Thibaut Texer. Bonjour Thibaut.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. La trêve va-t-elle durer au Moyen-Orient? On se pose la question ce matin. Donald Trump lance le déploiement de navires américains pour débloquer le détroit d'Ormuz malgré la menace de Téhéran qui voit en cette action une violation du cessez-le-feu en vigueur. Jean-Luc Mélenchon, officiellement candidat à l'Élysée en 2027, l'insoumis se lance pour la quatrième course à la présidentielle. Et puis il y a encore du monde ce matin près de Bourges. 11 000 fêtards présent sur les lieux d'un technival qui a rassemblé plusieurs dizaines de milliers de festivaliers ce week-end.
Donald Trump veut débloquer le détroit d'Ormuz.
Permettre à des bateaux de pays tiers bloqués depuis 2 mois de franchir ce détroit. C'est l'ambition de Donald Trump qui a donc dévoilé les contours de son projet. Liberté, un geste humanitaire, dit le président américain. Romain Houg, vous nous dites ce matin en quoi consiste cette opération qui doit débuter dans quelques instants.
Oui, c'est une opération d'envergure à laquelle doivent participer pas moins de 15 000 soldats américains, une centaine d'aéronefs, drones, avions et des navires de guerre, précisément des destroyers lance-missiles qui vont donc escorter au travers du détroit d'Ormuz des navires commerciaux de pays, je cite Donald Trump, qui n'ont rien à voir avec le conflit au Moyen-Orient. À la fin du mois dernier, 913 navires commerciaux étaient présents dans le Golfe, dont 270 pétroliers et une cinquantaine de navires gaziers. Des officiels américains cités par le média Axios ont donné plus de précisions. En fait, ce ne serait pas vraiment une escorte telle qu'on l'imagine. L'US Navy resterait à proximité pour défendre les navires en cas d'attaque iranienne, mais aussi pour les guider, leur dire quelle route maritime emprunter pour éviter d'éventuelles mines.
Une opération, Romain, qui n'est pas au goût de l'Iran.
Oui, les Iraniens ont immédiatement réagi et prévenu que toute intervention américaine serait perçue comme une violation du cessez-le-feu. Mais de son côté, Donald Trump, lui aussi, se fait menaçant. Si cette opération venait à être entravée par l'Iran, eh bien, cela devrait malheureusement, dit-il, être traité par la force.
Les réactions à l'instant d'Emmanuel Macron qui appelle à une réouverture concertée entre l'Iran et les États-Unis, précisant que la France ne prendra pas part à l'opération américaine. L'annonce de Donald Trump, en tout cas, n'a pas fait baisser les cours du pétrole ce matin autour des 110 dollars le baril, avec des prix à la pompe toujours plus hauts. Les distributeurs de carburant ont d'ailleurs rendez-vous ce matin à Bercy qui tient à vérifier que les prix à la pompe respectent bien les cours du marché. Pas question pour l'heure d'être généralisé. Pour autant, le gouvernement va venir en aide aux grands rouleurs qui pourront dès le 27 mai réclamer leurs indemnités carburant, un chèque de 50 euros, Caroline Renaud, sous condition.
Pour obtenir ce coup de pouce, il faudra remplir un formulaire disponible dans votre espace personnel sur impots.gouv.fr. Vous aurez 2 mois pour y renseigner votre état civil, votre numéro fiscal, celui de votre carte grise et enfin l'immatriculation de votre voiture. C'est aussi là que les grands rouleurs devront certifier qu'ils remplissent bien les conditions de distance parcourue, soit plus de 15 km par trajet et par jour entre leur domicile et leur lieu de travail, ou plus de 8000 km par an. Et puis il y a aussi des conditions de revenus, ne pas dépasser les 16 880 euros de revenu fiscal de référence par part en 2024. Si vous êtes éligible, une fois le formulaire rempli, l'indemnité sera versée directement sur votre compte bancaire sous 10 jours.
Un candidat de plus pour la présidentielle. Ils sont une dizaine sur la ligne de départ auquel s'ajoute désormais Jean-Luc Mélenchon, loin d'être une surprise. L'insoumis de 74 ans a confirmé hier soir aux 20h de TF1 sa quatrième candidature à la présidentielle. Cyprien Pézeril du service politique nous rejoint à un an du scrutin. Jean-Luc Mélenchon se positionne, Cyprien, à l'heure où la gauche semble plus divisée que jamais.
Oui, chez nous c'est carré, insiste depuis hier soir Jean-Luc Mélenchon, pour se distinguer de ses éphémères partenaires socialistes et écologistes qui eux n'arrivent pas à choisir leur candidat et ne s'accordent pas non plus sur la manière de le faire. Nous on avance comme des dingues alors que les autres sont en train de pédaler dans la semoule. Fanfaronne un mélenchoniste qui participait hier à une première réunion de campagne. Objectif, comme en 2022, viser le vote utile à gauche et pas question d'une quelconque candidature commune ou d'une participation à une primaire. Jean-Luc Mélenchon, persuadé que le match se jouera entre lui et Marine Le Pen ou Jordan Bardella, est persuadé aussi de l'emporter malgré ce que prédisent les sondages, malgré aussi des polémiques en série, une écume acide qui ne nous aide pas, admet pourtant un intime du leader insoumis. Mais pour l'heure, l'objectif est de se montrer en ordre de bataille, présence renforcée dans les médias cette semaine, des déplacements y compris à plusieurs milliers de kilomètres de Paris dans les cartons, et un premier meeting le 7 juin à Saint-Denis, ville désormais gérée par un insoumis, pour développer le concept de Nouvelle France.
Ils sont 11 000 personnes toujours présente ce matin au Technival de Bourges. C'est ce que nous dit sur RMC Loïc Quévran, le député Horizon du Cher précise que 2500 personnes ont été verbalisées en marge de l'événement, avec pour conséquence la suppression de 8 lignes de transport scolaire pour des raisons de sécurité ce matin dans le Cher. Ils étaient 150 festivaliers dans le Var pour une autre free party. Des événements musicaux illégaux dans le viseur du ministre de l'Intérieur. Laurent Nunez veut sévir, mieux réprimer ces rassemblements. Pour autant, Pierre Bazin, les capacités des autorités à empêcher ces free parties s'avèrent complexes.
Oui, même si les services de renseignement y travaillent, selon le ministre de l'Intérieur, identifier les organisateurs et le lieu de rendez-vous s'avère très compliqué, puisque sur les messageries cryptées qui facilitent l'organisation, mobilité et discrétion sont les règles d'or. Et puis parfois, des stratagèmes sont même mis en place par les organisateurs qui indiquent, jusqu'à la dernière minute, un faux point de rendez-vous pour prendre de court les gendarmes. Laurent Nunez admet la difficulté des autorités à faire face à l'implantation de ces événements.
Quand vous avez plusieurs milliers de personnes qui débarquent en échangeant pour choisir le lieu où ils vont s'implanter, que sur des réseaux qui sont chiffrés, Signal, Telegram, qui le font de manière extrêmement organisée, qui arrivent par milliers, qui commencent par installer les mursons pour qu'ensuite les gens arrivent, c'est très compliqué à endiguer.
Dans les cas où les gendarmes ne parviennent pas à empêcher l'événement, une source sécuritaire nous précise que l'enjeu est alors de faire en sorte qu'il n'y ait pas de drame, en facilitant notamment l'accès des secours au site ou en empêchant l'arrivée massive de produits stupéfiants.
L'impatience ce matin, à deux jours du match retour de Ligue des Champions, Bayern Munich PSG, après le spectacle du match aller et une victoire 5-4, les Parisiens ont rendez-vous en Bavière mercredi soir pour le dernier acte de cette demi-finale, 21h sur RMC, moment très attendu par les supporters du PSG forcément, mais ils ne sont pas seuls. Valentin Germain, c'est toute la France du foot qui se prépare à ce choc.
Devant le stade de la Beaujoire à Nantes, Jean-Christophe mange son sandwich. Il est supporter de Marseille, mais attend mercredi soir avec impatience.
Le dire, ça me fait un peu mal. Clairement, c'est un rendez-vous obligatoire. Avec mon fils, juste là, qui a vu le match aller, je pense que c'est un des plus beaux matchs que j'avais vu. On peut pas louper le match retour. On sera là quand même pour les supporter, parce que c'est un club de France.
À Metz, relégué en Ligue 2, Samuel a déjà prévu son programme.
C'est barbecue à la maison, et puis grosse fiesta. PSG, avec leur pouvoir d'attaque, pourra se qualifier.
D'autant que les joueurs cadres parisiens se sont reposés ce week-end face à Lorient. Le capitaine breton Laurent Abergel est né à Marseille, mais avoue son admiration.
C'était magnifique. On allume la télé pour voir ça. C'est sûr que t'as envie de revoir le même spectacle. Pas supporter, mais passionné. Ils sont trop forts. J'espère qu'on va vivre un beau match.
La France du foot attend donc ce rendez-vous, mais pas que, assure le journaliste espagnol Lucas Garcia, qui travaille pour la radio nationale.
Ici, les gens attendent presque plus le PSG Bayern que le match entre Arsenal et l'Atlético de Madrid, qui est le club espagnol. C'est un football différent. On en parle beaucoup en Espagne. C'est spectaculaire.
Et vu la qualité montrée par les deux équipes, personne ne se risque à donner un favori.
Bayern PSG, rendez-vous mercredi sur RMC, comme la victoire de Lyon 4-2 face à Rennes, que vous avez suivi sur notre antenne hier soir en Ligue 1. Troisième, les Lyonnais font un pas de plus vers la qualification en Ligue des Champions. La Coupe d'Europe et un doublé dans le viseur de l'Union Bordeaux-Bègles, c'est du rugby. Les Girondins défendront leur titre à Bilbao le 23 mai prochain face au Leinster, après avoir écarté Basse en demi-finale de la Champions Cup, 38-26 hier.
C'était le journal de Thibaut Texer, il est 8h09, on parle économie.
RMC, Apolline Matin.
Le chiffre d'affaires.
Économie et carburant ce matin. Emmanuel Le Chip, bonjour Emmanuel.
Bonjour à tous.
Finalement, c'est donc vers Total que se tourne le gouvernement pour tenter d'alléger la facture du carburant des Français. Il demande donc à Total un plafonnement généreux des prix à la pompe. Ça
bah oui, une petite pièce, monsieur Pouyamé, s'il vous plaît.
C'est exactement ça.
Bah oui, parce que pour le moment, Sébastien Lecornu n'a pas d'autre solution, s'il veut s'en tenir à son quoi qu'il n'en coûte rien budgétaire, que de demander un geste à Total. Alors il a bien essayé de pointer du doigt les distributeurs avec une étude un peu discutable sur les hausses de leurs marges brutes, mais en réalité, ce sont les marges nettes qui comptent et elles sont restées très faibles. Non, le seul acteur sur lequel le gouvernement a finalement une influence, c'est Total Energy, avec toujours les de Damoclès de cette taxe sur les super profits après l'annonce des bénéfices spectaculaires du premier trimestre.
Est-ce que c'est une solution satisfaisante ?
Bah non, parce qu'en fait, ce décalage entre les prix affichés par Total et ceux des concurrents désorganise complètement la filière de distribution des carburants et ça ne fait pas l'affaire au Total sur le pouvoir d'achat. Le compte n'y est pas. Alors, est-ce que le gouvernement va lâcher sur les baisses de taxes ? Parce que finalement, c'est la question que tout le monde se pose. Il faut rappeler qu'il est celui en Europe, avec le Royaume-Uni, qui a le moins fait pour alléger la facture énergétique des Français. C'est ce que nous a montré l'Institut Bruegel dans une étude la semaine dernière. Le problème, c'est que, oublions cette idée de cagnotte liée aux taxes sur les carburants, vu que, je vous le rappelle, une partie des taxes sur les carburants est indexée sur les volumes vendus et pas sur les prix. Or, les baisses de consommation, Apolline, sont spectaculaires. Sur le gazole, on est à presque moins 20% de consommation au mois d'avril par rapport à avril 2025. Sur l'essence, le sans-plomb, on est à moins 14% sur un an. Donc, c'est pas là qu'il faut aller chercher des sous. En plus, on l'a vu, la croissance cale, 0% au premier trimestre. Ça veut dire qu'on fera pas la prévision de croissance sur 2026 et que du coup, il y aura encore plus de déficit que prévu. Donc, si le gouvernement doit en arriver à finalement baisser les taxes, ce sera après avoir aidé de nouveaux secteurs, on pense aux taxis, aux VTC, après avoir élargi les conditions d'accès à la prime carburant dont on pourra profiter à partir de la fin mai. Donc à la Saint-Glinglin, je vois dans vos yeux.
Oui, parce que franchement, c'est ce que pensent ceux qui continuent à faire ceux qui ne peuvent pas se passer de faire leur plein.
Après, avant d'en arriver à la baisse des taxes, il aura fini par lâcher sur les fameux certificats d'économie d'énergie qui, rappelons-le, ne coûtent rien et ça représente 15 centimes par litre. Donc, grosso modo, la baisse des taxes éventuellement avant le mois de juin et peut-être même juillet. C'est même pas en rêve.
C'est assez peu probable. Les prix du jour, comme chaque matin sur RMC.
Alors, le gazole, la décrue continue quand même. Hein. On est à 2,157 le litre. C'est quand même 4 centimes de moins en une semaine. Alors que sur le sans-plomb 95, on est plus cher qu'il y a une semaine. On est à 2,01. C'est 3 centimes de plus qu'il y a une semaine. Alors, le pétrole, on a eu une bonne nouvelle cette nuit. Donc, du coup, paf, on est retombé à 120 $ le baril, alors qu'on était monté à plus de 120 la semaine dernière. Mais Donald Trump a annoncé l'allègement du blocus américain cette nuit. Et puis sur le gaz, on est stable autour de 45 euros le mégawatt-heure. Ça a augmenté un peu depuis les points bas de mi-avril à 40 euros, mais on est très loin du pic de 60 euros atteint au début du conflit.
Merci Emmanuel, il est 8h12.
I'm free. Votre rendez-vous sur RMC avec Banque Populaire, engagée aux côtés de ceux qui entreprennent. Banque Populaire, la réussite est en vous.
Et Anthony nous appelle au 32-16. Je voudrais qu'on puisse recueillir votre réaction parce que vous êtes nombreux à réagir à cette énorme Technival près de Bourges où il y avait 20 000 jeunes, 20 000 fêtards. Comment vous réagissez, Anthony ?
Bonjour, Pauline. Comme je disais, je suis pourtant fan de la musique électronique pour la liberté d'expression. Et j'étais pourtant à côté de la free party, mais ce genre d'événement n'est pas trop pour moi. Je préfère mettre, plutôt que 135 euros d'amende, payer un billet pour un vrai festival avec des organisateurs. Après, je sais que ce n'est pas du tout leur manière d'être et qu'ils veulent rester comme ça, quoi qu'il arrive.
Vous allez dans les festivals, Anthony ?
Oui, je préfère un festival où il y a un vrai camping, des douches, des sanitaires, des vraies scènes, pas de bagarres, pas de vol. Me faire fouiller 30 fois dans le week-end, ça ne me dérange pas. Je préfère ce genre d'événement.
Oui, en fait, c'est aussi vraiment une question. C'est-à-dire, vous aimez la musique, mais pas dans ces conditions-là. Au-delà de votre goût personnel, est-ce que vous considérez que organiser ces rencontres illégales qui ont quand même des conséquences, on avait le député Duchère qui était donc mon invité à 7h10 ce matin, qui disait que ce matin, il y avait beaucoup d'élèves qui pourraient pas aller à l'école parce que les bus peuvent pas passer, qu'il y aurait plein d'agriculteurs qui pourraient pas faire leur récolte, et puis surtout les conséquences militaires, puisque c'est un terrain militaire, avec des tests, notamment des canons César, qui vont pas pouvoir avoir lieu. Sur cet aspect-là, Anthony, vous en pensez quoi ?
Eh ben justement, si c'est un terrain militaire, je ne comprends pas comment il faudrait rembourser des agriculteurs qui n'ont pas le droit de cultiver ces champs.
Alors, il y a une partie, parce qu'ils étaient ils sont passés, en fait, ils ont traversé les champs
oui, ça a la marge,
pour y
on
aller.
Dire. Alors, je sais
ça,
pas,
ça vous choque pas tant que ça.
Quand c'est dans un terrain privé, ça va pas. Quand c'est dans un hangar, ça va pas. Quand c'est dans un terrain public, ça va pas. On n'arrivera jamais à trouver un terrain d'entente et ils voudront toujours leur liberté d'expression. Ça va être dur à réprimer. Je sais que la loi est de plus en plus dure. Ils vont passer de 135 à 1500 euros d'amende pour les participants.
C'est évoqué, mais pour l'instant, même les 135, ils sont pas vraiment appliqués. Hein. Donc, on n'y est pas.
Je préfère payer un billet pour un vrai festival.
Merci beaucoup, Anthony, pour votre réaction. N'hésitez pas, comme Anthony, vous connaissez le chemin. Le 32-16, il est 8h15.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Vous êtes bien sur RMC. Dans un instant, ce sera le meilleur d'Arnaud Demanche. Et puis à 8h30, mon invité dans le face-à-face, c'est la vigie de l'économie française, le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Galhau. Quelles conséquences pour notre économie au 66e de jour de la guerre au Moyen-Orient? La croissance est à l'arrêt, les emplois sont en berne et l'inflation remonte. Le verdict donc du gouverneur de la Banque de France, c'est à 8h30 sur RMC et BFM TV. Juste après ça, comme chaque matin, pour notre plus grand bonheur, face à Canteloup, Nicolas Canteloup en direct à 8h50 sur RMC. Il est 8h15.
RMC, Apolline Matin.
C'est tous les jours de manche.
Il est 8h18 sur RMC. Arnaud Demanche a pris quelques jours et il a bien mérité quelques jours de repos. Mais il est quand même avec nous parce qu'on en a gardé le meilleur. Écoutez, Arnaud Demanche, tiens, qui nous parlait de cinéma.
Dites donc, Apo.
Ouais.
Qu'est-ce que j'apprends pas?
Quoi.
Je lisais les cahiers du cinéma hier. Vous allez devenir actrice? Et oui, Apo va jouer dans Baron Noir, la série de Canal+.
Ouais.
C'est une nouvelle carrière qui commence. J'espère que vous aurez un César pour ce rôle.
Ah bah j'espère aussi.
Remis par Dominique Besnéard lui-même. Chers amis, c'est un immense honneur pour moi de remettre ce César du meilleur espoir féminin à Apolline de Malherbe, merveilleuse, radieuse, pour son rôle d'Apolline de Malherbe. J'ai jamais vu quelqu'un jouer Apolline de Malherbe aussi bien qu'Apolline de Malherbe. Alors Apo, j'ai un projet à te proposer.
Oui.
Alors c'est disruptif, hein. Attention, c'est pas Baron Noir, c'est un projet pakistanais.
Ah.
C'est une métaphore de la crise du détroit d'Hormuz et ses futurs palmes d'or à Cannes. Tu jouerais une gardienne de puits dans une steppe désertique en Azerbaïdjan qui surveille un puits désaffecté après l'AVC du précédent puisatier interprété par Jean-Jacques Bourdin. Chaque matin, tu vas au puits, tu t'assois, tu tournes une valve et tu regardes cette eau qui ne coule pas. Alors tu interroges, mais cette fois du regard intérieurement, le monde et l'absurdité bureaucratique. Tout ceci dure 23 ans et un jour, une fonctionnaire du ministère de l'économie américaine. Alors pour la jouer, j'ai pensé à Edwige Chevrillon de BFM Business,
oui.
la femme frontale directe, et en même temps la femme fleur, la femme fruit. La fonctionnaire t'annonce « Notre gouvernement veut rouvrir le puits et le contrôler ». Alors tu ne réagis pas, mais imperceptiblement quelque chose s'est fissuré.
Ah oui.
Et tu développes une relation silencieuse avec le vide du puits.
Oui,
tu lui parles sans mots et le vide ne répond pas.
Ah.
Mais par moments, il semble respirer.
Ah,
tu poses
bon.
Alors ta première question, pourquoi? Et après on se doute, il y en aura beaucoup d'autres. Ça s'appelle le détroit intérieur, celle qui veillait sur l'eau absente, tu vas cartonner.
Moi
je veux voir ça.
Les lignes d'urgence pour les marins bloqués dans le détroit d'Hormuz sont submergées d'appels.
C'est vrai. Alors bon, si c'est saturé partout ailleurs, en cas d'urgence, ils peuvent appeler RMC. Il y aura toujours quelqu'un qui sera ravi de leur parler à notre standard. Ah, un auditeur qui nous appelle. Salut et bienvenue à la libre antenne d'RMC Gold, la radio musicale d'RMC pour tous les fans de Gold. On vient d'écouter à l'instant Capitaine Abandonné, je crois. Et tu voulais réagir à cette chanson, cher auditeur.
Non, pas du tout, mon bateau est coincé dans le détroit d'Hormuz et tout le monde s'en fout.
Mais non, attends, t'es vraiment un capitaine abandonné? C'est dingue, alors on va se la remettre.
Capitaine abandonné.
Qu'est-ce que vous racontez? Vous pouvez appeler les secours, prévenir l'armée.
Attends, tu peux nous en dire un peu plus sur la chanson? Comment tu l'as composée, capitaine abandonné?
Mais je suis pas musicien, merde. Je suis capitaine d'un pétrolier, j'appelle du détroit d'Hormuz.
Et t'es en tournée au Moyen-Orient avec Desireless, c'est génial.
Je peux parler à un militaire.
Bon, on te bascule sur RMC. RMC, bonjour, bienvenue dans Apolline Matin.
Bonjour, je suis capitaine de pétrolier.
Eh ben bravo, vous avez gagné un plein d'essence. Bon, à vous ailleurs les mecs. C'est plus prudent. Bon courage.
Le meilleur d'Arnaud Demange. Il est 8h22 et nous allons partir. Attention, pour féliciter notre gagnant du jour, on prend la direction de Pénautier dans l'Aude. Bonjour Christophe.
Bonjour.
Ben, félicitations Christophe.
Merci beaucoup, la journée commence très bien.
La journée commence très bien, vous êtes fonctionnaire territorial dans l'Aude, c'est vous qui avez gagné le séjour Bel Embras d'une valeur de 2000 euros. Bravo Christophe, vous aviez pris des vacances récemment?
Non, pas encore. Hein.
Pas encore, bah, ça tombe bien, vous aviez bien fait de nous attendre. Vous savez que vous avez donc gagné un séjour d'une valeur de 2000 euros dans les clubs et hôtels Bel Embras, spécialiste des clubs de vacances pour les familles de France. Vous allez avoir le choix entre 40, 45 même destinations dans les plus beaux endroits de France. Est-ce que vous savez si vous avez envie d'aller à la mer ou à la montagne?
Alors là, pour l'instant, aucune idée. On n'a pas encore réfléchi.
Vous êtes encore juste les étoiles dans les yeux. Vous partiez, voilà, bosser là?
C'est ça, oui. En allant au travail.
Eh bien, félicitations. Et on peut déjà vous dire bonnes vacances. Félicitations, Christophe. Comme Christophe, vous jouez et on vous offre toute la semaine vos vacances.
Gagnez vos vacances dans Apolline Matin sur RMC avec Bel Embras. Bel Embras Club, numéro 1 des clubs de vacances en France.
Il est 8h23 dans un instant, c'est le face-à-face. Mon invité, c'est François Villeroy de Gallo. François Villeroy de Gallo, qui est donc le gouverneur de la Banque de France. C'est véritablement son verdict sur l'économie française. Est-ce qu'on peut encore espérer une croissance cette année face au risque d'inflation et au 66e jour de guerre? Donc ne manquez pas François Villeroy de Gallo dans un instant.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin. Face-à-face.
Apolline de Malherbe.
Vous êtes bien sur RMC et BFM TV. Bonjour François Villeroy de Gallo.
Bonjour Apolline de Malherbe.
Merci de répondre à mes questions ce matin. Vous êtes le gouverneur de la Banque de France et vous l'êtes d'ailleurs depuis 2015 et encore pendant un mois. Vous avez beaucoup de recul désormais sur l'économie française. On va y revenir et rien ne va plus, on peut le dire, pour l'économie française. L'INSEE a donc confirmé ce que tout le monde avait déjà comme intuition. L'économie française est littéralement à l'arrêt. Croissance nulle pour les premiers mois de l'année. Et c'est aujourd'hui que vous vous adressez au président puisque vous lui adressez votre dernier bulletin de santé de l'économie française, la lettre annuelle au président de la République. On va y revenir, mais justement, comment ça va, docteur, en fait?
Alors, c'est surtout l'incertitude, Apolline de Malherbe. Moi, je ne dirais pas que rien ne va plus. Je dirais qu'aujourd'hui, on est face à un choc sans précédent. Ce conflit en Iran, la fermeture du détroit d'Ormuz, la montée, évidemment, du prix de l'énergie. Et nous ne savons pas quels vont être exactement les effets économiques. Parce qu'on ne sait pas combien de temps va durer ce conflit. Ça dépend de la stratégie américaine, notamment, qui est très imprévisible. Et donc, nous avons publié 3 scénarios différents au mois de mars. Les effets sont tous dans le même sens, malheureusement, c'est-à-dire plus d'inflation, moins de croissance.
Mais l'ampleur
des effets dépend du scénario dans lequel on se trouvera.
Au mieux, c'est quoi?
Absolument.
En termes de croissance.
D'abord, ce que nous avons dit au mois de mars, et que je redis ce matin, c'est qu'il faut pas tout parier sur le scénario le plus favorable, le scénario qu'on avait appelé de base. Il y a aussi un scénario défavorable, puis un scénario très défavorable. Au pire, pour répondre à votre question, on a d'abord une poussée d'inflation en 2026, cette année. Alors, l'inflation, selon les scénarios, se situerait entre un peu moins de 2% en moyenne annuelle, ou plus de 3%. Mais ensuite, l'inflation reviendrait vers la cible de 2%.
Quand vous dites ensuite, ça veut dire après un an?
Ça veut dire 2027-2028. La durée exacte dépend du scénario dans lequel on se trouve. Ça dépend à combien monte le prix du pétrole et combien de temps ça dure.
Mais alors attendez, je vous arrête un instant. Déjà, ça veut dire que le plancher est plus haut que la prévision que vous en aviez faite, puisque initialement, on avait parié sur 1,8% d'inflation, me semble-t-il, pour l'année. Et vous dites que ce sera au moins 2.
Non, on avait moins que ça sur la France. Parce que c'est un des atouts de la France. Il faut quand même être lucide aussi sur notre force. On en a, bien sûr. C'est que notre inflation est basse. C'est même la plus basse de la zone euro. Donc on partait d'une inflation qui était autour de 1. On devrait aller vers 2% cette année. Peut-être plus si on est dans les scénarios défavorables. Mais ensuite, on revient vers les 2%. Puis l'autre question, c'est la croissance. Alors, dans tous les scénarios que nous publions, on garderait quand même une croissance positive cette année. Alors on est entre 0,9 dans le cas le plus favorable ou 0,3 dans le cas le plus défavorable, on verra. Et la France échapperait à la récession. Donc ça, c'est des moins mauvaises nouvelles. Maintenant, on va pas se raconter l'histoire. Ce choc qui arrive de l'extérieur, c'est évidemment un élément négatif, pas seulement pour l'économie française, pour l'économie européenne et l'économie mondiale.
Vous dites le mot choc, on va y revenir, choc pétrolier ou non, qu'est-ce qu'il faut en entendre ? Mais je m'arrête un instant sur cette prévision de croissance. Je rappelle que le budget sous lequel nous sommes aujourd'hui est un budget qui avait été fait avec une prévision de croissance de 0, déjà de 1, qui a été rebaissé à 0,9. Et au fond, ce qu'on entend dans ce que vous nous dites, c'est que 0,9, c'est le scénario le plus optimiste.
C'est probablement le scénario favorable. Je crois qu'il est trop tôt pour dire ce que ça va donner sur le budget. Vous savez que l'objectif du gouvernement, c'est un déficit de 5% cette année. C'est pas un effort énorme par rapport à l'année dernière, puisqu'on a terminé à 5,1.
Mais pardon, c'était déjà pas un effort énorme, mais dans un contexte où on espérait une croissance...
Voilà. Mais je crois qu'il faut tenir ce 5%. Le gouvernement a d'ailleurs annoncé des mesures d'économie sur d'autres dépenses, moins prioritaires. Et puis si vous me permettez de prolonger sur le budget, ça fait partie des inquiétudes
et
des Français.
Ce sont les discussions aujourd'hui des politiques.
La dette qui est beaucoup trop élevée, il faut qu'on ait l'objectif de revenir à 3% de déficit d'ici 2029. C'est notre engagement européen, mais surtout ce chiffre de 3%, c'est pas magique. C'est celui qui nous permettrait enfin de diminuer le poids de la dette par rapport au PIB, par rapport à la taille de l'économie française.
Mais est-ce que c'est pas un vœu pieux ?
Je ne crois pas, je crois que c'est une nécessité. Et alors quand nous regardons plus largement ce que nous faisons dans cette lettre au président de la République, la France a plus de déficit que ses voisins, plus de dettes. Pourquoi ? Parce qu'elle a plus de dépenses publiques. Nous avons à peu près le même modèle social européen que nos voisins. Moi j'y crois, c'est un bon modèle social. Simplement, il nous coûte beaucoup plus cher que les autres. Donc il faut faire un effort sur l'efficacité de toutes nos dépenses.
Et ça veut dire qu'il va falloir aussi faire quelques sacrifices ?
Ça veut dire qu'il va falloir faire des choix. En tout cas, nous ne pouvons pas tout financer. Et regardons nos voisins européens. Vous savez, ils ont les mêmes politiques que nous et souvent, ils arrivent à des meilleurs résultats en dépensant moins. Ça, c'est très pratique. C'est pas politique ou idéologique.
Vous avez parlé d'un choc. Vous avez dit plusieurs fois le mot choc. Est-ce que vous diriez aussi choc pétrolier ?
Alors, le choc pétrolier, ça renvoie pour les vénérables de ma génération, Apolline, ça renvoie aux années 70. Quand on avait connu, en 1973, puis en 1979, de hausses très fortes et très durables des prix du pétrole. Aujourd'hui, on n'en est pas là. Évidemment, plus les choses se prolongent, plus on se rapproche d'un choc pétrolier. Mais tout va dépendre de la durée du conflit et donc de variables politiques et militaires.
On se rapproche d'un choc pétrolier. C'est-à-dire qu'effectivement, on est aujourd'hui au 66e jour de guerre. Michel-Edouard Leclerc, par exemple, dit c'est pas de si tôt qu'on retrouvera les prix d'avant. Est-ce qu'on peut même imaginer qu'au fond, les prix du carburant actuel puissent devenir le nouveau normal ?
Je vais vous dire avec simplicité, je ne sais pas. Et je crois que
mais à quoi vous servez ?
Non, si vous savez, Apolline de Malherbe, prédire l'avenir de façon certaine dans ce monde où nous vivons, vous êtes extrêmement forte.
Non.
Ce que je sais.
Non.
C'est pour ça que nous publions trois scénarios différents. Et dans au moins deux des trois scénarios, le prix du pétrole rebaisse d'ici la fin de l'année et pour l'année prochaine. On va voir. Je crois néanmoins que de toute façon, ça c'est un message très important de notre part, faut évidemment accélérer la transition énergétique.
C'est ça la réponse.
Nous ne pouvons pas vivre avec tous les 5 ans, tous les 10 ans, une crise au Moyen-Orient ou une crise pétrolière liée à l'invasion de l'Ukraine qui nous prend, en otage notre économie. Donc il faut réduire notre dépendance. Ça veut dire les énergies propres. C'est d'ailleurs bon pour le climat. Il se trouve que la France est plutôt en avance là-dessus grâce à l'énergie nucléaire. Mais il faut évidemment aller plus loin dans cette direction. C'est au-delà des réponses de très court terme, il faut se donner des caps.
Alors il y a des caps et il y a la question du long terme. Mais dans le court terme, quand on regarde nos voisins, l'Allemagne par exemple, à partir d'aujourd'hui, baisse de 17 centimes d'euros par litre après l'Espagne. Ça sera au moins jusqu'à la fin du mois de juin. Un coup de pouce que les Allemands font, qui est estimé à 1,6 milliard d'euros. Et ici, en France, on espère juste que Total va faire le boulot.
Oui, alors là, je crois que c'est un des sujets où il faut pas forcément aller chercher l'inspiration chez nos voisins. D'abord parce que d'expérience, ça n'est pas des mesures très efficaces, y compris pour une raison très simple, c'est que ça pousse Ça encourage la demande de carburant et donc ça contribue à la hausse des prix. Ça fait le contraire de ce qu'on voudrait. Et puis, il se trouve que nos voisins ont deux différences avec la France. Ils ont plus d'inflation, on le disait tout à l'heure. La France est un peu mieux protégée par son énergie nucléaire. Et puis, deuxièmement, ils ont plus de moyens budgétaires. Nous n'avons plus d'argent pour financer des mesures générales. Donc, il faut prendre des mesures ciblées, en fait, temporaires sur les
gros rouleurs. François Villeroy de Galhau, on peut le tourner dans tous les sens. On n'a plus les moyens.
On n'a plus les moyens, en tout cas, de prendre des mesures générales qui, par ailleurs, sont assez inefficaces.
Toutefois, il y avait des mesures efficaces, on devrait de toute façon pas les moyens de les prendre.
Ah, alors, le gouvernement a pris des mesures ciblées sur ce qu'on appelle les gros rouleurs, certaines professions. Je crois que c'est important aussi qu'elles restent temporaires. Qu'est-ce qui s'est passé après 2022, le précédent choc lors de l'invasion de l'Ukraine? On a pris des mesures, puis on n'a pas réussi à retirer ces mesures favorables quand le prix du pétrole a baissé. Alors ça coûte beaucoup trop cher.
Total, à qui le gouvernement demande de faire plus, de continuer, je cite, un plafonnement généreux. C'est soit ça, soit une taxation de leurs super-profits, en quelque sorte. Est-ce que c'est ça l'équation aujourd'hui?
Oui, alors la Banque de France n'est pas dans la discussion avec Total. J'ai d'ailleurs vu que l'entreprise avait pris un certain nombre d'engagements sur le diesel à l'occasion des ponts. Bon, je crois que ça, c'est vraiment une négociation. On a la chance d'avoir une grande entreprise énergétique française.
Mais vous vous étiez exprimé sur la question justement de la taxation, des taxations exceptionnelles qui sont de moins en moins exceptionnelles puisqu'elles sont reconduites d'une année sur l'autre. Est-ce qu'il faut pas hésiter effectivement à mettre à contribution des très grosses entreprises quand on voit les profits de Total?
Je crois que c'est un petit peu trop tôt pour le dire. Si ça devait être mis en place, c'est de la même façon que je disais tout à l'heure, ciblé sur certains profits liés à la crise énergétique et temporaire quand cette crise énergétique sera résolue.
Croissance, inflation, choc pétrolier ou non, trop tôt pour le dire. Emploi, il y a un ralentissement aussi des promesses d'embauche. Quand même, le scénario, je veux bien qu'il y ait des scénarios moins pessimistes que les autres, mais il y en a très peu qui soient vraiment optimistes.
Je me méfie toujours des mots optimistes et pessimistes.
Alors, dites-les vôtres.
Ce que nous essayons d'être, c'est d'être lucides. Dans cette lettre au président de la République, on fait une photo sur 15 ans de l'économie française. C'est très important à côté de ce que nous venons de dire sur l'urgence, parce qu'il faut aussi prendre un peu de recul. Nous disons, au-delà de l'urgence, plus que jamais, élargir l'horizon, faire un pas de côté pour faire un bilan de santé aussi objectif et complet que possible de l'économie française. Or, il se trouve justement sur l'emploi, depuis 15 ans, ça c'est un vrai progrès que nous avons fait collectivement. Il y a aujourd'hui un taux de chômage qui reste trop élevé, hein. Il est entre 7,5% et 8%.
Et il remonte.
Légèrement. Un peu. Mais dans les précédentes crises, Apolline de Malherbe, on avait un taux de chômage qui était supérieur à 10%. Et je ne sais pas si vous savez, nous avons nous-mêmes été surpris par ce chiffre. Combien d'emplois l'économie française a créé depuis 2010? Parce qu'on a pris ce recul sur 15 ans. Près de 4 millions d'emplois nets, les créations moins les suppressions. 3,9 exactement. Le taux de chômage a beaucoup baissé. Le taux d'emploi, c'est-à-dire la part de la population au travail a monté. Ça, c'est des choses qui vont dans le très bon sens. Et l'emploi résiste plutôt bien aujourd'hui au ralentissement de la conjoncture.
Avec le recul, est-ce que vous estimez que la France a fait effectivement les changements qu'elle devait faire sur ses structures, son économie, le travail dont on dit en permanence qu'il ne paye pas suffisamment? Est-ce que ça, ce sont des choix politiques qui n'ont pas été faits?
Alors, pas assez. Et je précise, quand on regarde depuis 2010, nous enjambons les cycles politiques, il y a eu divers présidents, divers gouvernements, il ne s'agit pas de distribuer des bons ou mauvais points à tel ou tel. Mais ça correspond à un cycle économique, 2010 c'est le début du temps des crises. En ultra résumé, je crois que ce qu'on peut dire, c'est que sur la croissance, à chaque fois on se compare aux pays européens, la performance de la France, elle se juge en comparaison aux autres qui sont dans la même situation. Sur la croissance, nous avons une position intermédiaire, c'est-à-dire que nous avons fait comme la moyenne de la zone euro. Ni plus mal, ni mieux. Il y a eu un point positif, c'est ce que nous disions à l'instant sur l'emploi, puis un point négatif où clairement on n'a pas fait ce qu'il fallait, c'est les finances publiques. C'est-à-dire que nous avons beaucoup trop de déficits et de dettes comparés à nos voisins.
Quand vous regardez ce qui s'est passé en ce week-end de pont autour du 1er mai, est-ce que c'est pas le symptôme d'une sorte de cacophonie ou de difficulté de la France à prendre des décisions? On a d'un côté effectivement ouvert l'idée que finalement on pouvait travailler le 1er mai. Le Premier ministre lui-même a presque encouragé l'illégalité, puisqu'il a encouragé certains boulangers à ouvrir, à travailler, alors que des contrôleurs disaient bah non, c'est illégal, à faire travailler leurs salariés. Est-ce que c'est pas le problème, le symptôme de ces difficultés à trancher pour la France?
Vous me permettez une note personnelle, Apolline de Malherbe. Je crois que c'est surtout le symptôme du fait que notre débat se met sur de multiples polémiques de l'instant.
Vous, avec le recul des 15 ans, vous vous dites, en fait, cette histoire du 1er mai, des fleuristes et des boulangers...
C'est pas la question décisive pour l'avenir de l'économie française. Or, on le disait à l'instant, sur le travail et sur l'emploi, nous avons fait des progrès. Il y a eu le
pacte... Mais est-ce que c'est pas parce que vous bottez en touche?
Non, c'est pas du tout pour botter en touche. Mais que les fleuristes ou les boulangers travaillent le 1er mai, dans des conditions clarifiées... Très bien, mais c'est pas ça qui va faire une immense différence pour l'économie française.
Mais vous parlez d'incertitude. Vous avez commencé avec le mot d'incertitude en disant que le plus difficile pour pour tous ceux qui travaillent en France, c'est l'incertitude. Quand on voit effectivement qu'en fait on ouvre sans être sûr qu'on a le droit d'ouvrir, est-ce que c'est pas véritablement le symptôme de cette incertitude?
Bien sûr, mais ce que je dis, c'est que c'est un problème relativement limité. Tout ce que nous pourrions faire, par exemple, pour développer encore l'apprentissage ou pour améliorer l'efficacité des dépenses d'éducation et de formation professionnelle. Ça, c'est un élément assez important de notre bilan. C'est que quand on se compare aux autres, nous dépensons à peu près autant sur l'éducation et la formation professionnelle, mais l'efficacité de ces dépenses est plutôt moins bonne qu'ailleurs. Donc ça, c'est quelque chose qui changerait vraiment l'économie française. Ce qui a été fait sur un certain nombre de réglementations du travail, la loi El Khomri en 2016, les ordonnances Pénicaud en 2017, a beaucoup réduit l'incertitude justement, et ça je crois que ça a facilité l'emploi, donné envie aux entreprises d'embaucher. Donc nous avons fait des progrès. Encore une fois, la question du 1er mai, elle est très franco-française, elle est de très court terme, pourquoi pas, mais élargissons l'horizon et puis regardons les meilleures solutions de nos voisins.
Quels sont vos regrets? En avez-vous? Vous, dans un mois, vous quitterez cette fonction. Est-ce que pas forcément de vos outils ou non, mais sur le regard que vous avez porté jour après jour pendant 15 ans sur l'économie française.
Bon, d'abord, je crois qu'il y a une satisfaction, c'est l'inflation. Il se trouve que c'est la Banque de France qui est en charge.
Votre job.
Avec la Banque Centrale Européenne, nous avons eu des très bons résultats sur l'inflation. Et ça a
avec
aidé...
quand même un moment de souffrance.
Ah, bien sûr. Ça, on ne peut pas totalement faire abstraction des conditions extérieures. Quand il y a eu l'invasion de l'Ukraine par la Russie, ça a été inflationniste. Mais en moyenne, l'inflation, depuis 15 ans, elle a été un peu inférieure à 2% en France. Au passage, ça a aidé le pouvoir d'achat. Alors, je vais peut-être surprendre ceux et celles qui nous écoutent et nous regardent.
Mais le pouvoir d'achat est en hausse très légère.
Le pouvoir d'achat, depuis 15 ans, a augmenté en moyenne par Français de 12%. C'est pas mal, c'est moins qu'avant. On pourrait faire encore mieux si on accélérait la croissance. Mais ça, je crois que sur l'inflation, c'est un point positif. Mon regret, c'est que notre débat ne regarde pas assez les meilleures solutions de nos voisins. Vous savez, on est très frappé dans ce bilan qu'il y a des pays européens. On dit l'Europe est en retard, est en train de se faire distancer par les États-Unis. Il y a au moins 3 pays européens très proches de nous, qui ont un modèle de société qui ressemble, c'est la Suède, le Danemark et les Pays-Bas, qui sur la plupart des sujets ont des bien meilleurs résultats.
Donc, et pourquoi?
On peut avoir le modèle social européen, être innovant. Je crois que c'est des pays qui ont plus de consensus social. C'est des pays qui ont des entreprises plus innovantes parce qu'elles ont plus de fonds propres. C'est des pays aussi qui ont de l'épargne retraite privée en complément des retraites publiques. Ça diminue la charge sur les finances publiques. Et donc, je crois que c'est des pays que nous aurions intérêt à regarder sur leurs diverses solutions.
Qu'est-ce que vous direz à votre successeur? Je le rappelle, effectivement, dans un mois, vous passerez le relais, vraisemblablement, à l'actuel secrétaire général de l'Élysée, Emmanuel Moulin, qui pourrait être votre successeur. Qu'est-ce que vous direz à votre successeur?
Je dirais que d'abord, c'est une magnifique mission que j'ai eu l'honneur d'exercer avec les 9000 hommes et femmes de la Banque de France. Je lui dirais d'être évidemment très très sensible à l'indépendance. Pourquoi? Parce que tout ce constat que nous publions aujourd'hui, il est objectif, il est là pour nourrir le débat, parce que la Banque de France regarde les faits et essaye d'apporter un constat avec lucidité. Nous ne roulons pour personne. Hein, et je lui dirais évidemment de continuer à exercer notre mission contre l'inflation, pour la stabilité de la monnaie. Dans l'incertitude dont on parlait, ça c'est un élément très important que nous apportons aux Français. Ils soutiennent l'euro. Et puis de continuer à plaider pour un certain nombre de réformes, parce que notre pays peut croître plus. Moi j'y crois, Apolline de
Malherbe. Oui, je vois.
Ça, c'est très
je
important.
Je vois, vous ne voulez ni être...
Et je crois que nous avons, dans ce monde dangereux, incertain, Nous avons, nous, Français, nous, Européens, beaucoup plus de cartes économiques en main
vous
que nous ne pensons.
Vous ne voulez jamais être réduit à la question de l'arène politique. Vous venez de citer le mot d'indépendance.
C'est pas que je suis réduit, c'est que nous n'y sommes pas. Nous
mais
sommes
ce n'est pas ce que dit Marine Le Pen, qui, le 25 février dernier, disait, je la cite, « C'est une forme de violence institutionnelle que de verrouiller les institutions au point de manœuvrer avec M. Villeroy de Gallo. Ce n'est pas anodin. » Elle sous-entend que le fait que vous partiez et que vous laissiez votre poste juste avant l'été, c'est une manière, au fond, pour Emmanuel Macron de nommer votre successeur. Qu'est-ce que vous répondez à ça?
Si vous me permettez, Apolline de Malherbe, je vous arrête tout de suite. D'abord, je ne commande jamais les propos de responsables politiques, donc je ne vais pas commencer ce matin.
Elle s'adresse
mais
à vous.
Me concernant, personne ne m'a demandé de quitter mes fonctions. Et si on l'avait fait, j'aurais refusé. J'ai trop de respect pour l'indépendance. Je pars pour prendre une mission à laquelle on m'a appelé, c'est la présidence de la Fondation Apprenti d'Auteuil, qui est une œuvre magnifique en faveur de la jeunesse en difficulté. C'est pour cette raison-là, et évidemment, je le fais en homme libre, je demande qu'on respecte cette décision.
Voilà votre réponse ce matin. Merci beaucoup François Villeroy de Gallo d'avoir répondu à mes questions. Vous qui êtes donc le gouverneur de la Banque de France. Il est 8h47 sur RMC BFM TV. Dans un instant sur RMC, face à Canteloup, Nicolas Canteloup débarque avec toutes ses imitations.
RMC, Apolline Matin,
8h50, face à Canteloup.
Tous les jours, l'info revisitée par Nicolas Canteloup, bonjour. François Villeroy de Gallo était mon invité dans le face-à-face ce matin. Bruno Le Maire voulait réagir à cette interview, bonjour.
Oh la bonne blague. J'ai écouté les chiffres donnés par François Villeroy de Gallo. 0% de croissance, 5% de déficit, une inflation à plus de 2%. Mais c'est pas à peine de me virer de Bercy si c'est pour faire ça, franchement. J'aurais très bien pu le faire moi-même.
Bon, vous avez critiqué le dispositif du gouvernement pour aider les travailleurs modestes, grands rouleurs, à faire face à la crise pétrolière.
Mais oui, mais c'est nul. Pour avoir 20 pauvres centimes de réduction par litre, attention, plafonné à 50 euros seulement. Il faut gagner moins de 1 500 balles par mois, parcourir 8000 bornes par an sur des trajets domicile-travail, uniquement dans une voiture française dont la marque commence par un H, et avec une plaque d'immatriculation à deux chiffres impairs. Offre valable, bien sûr, seul, si et seulement si le conducteur est originaire du Nord et si sa mère, qui se prénomme Isabelle, a les yeux bleus. Non mais attends, j'ai pas fini. Avec bien sûr une attestation sur l'honneur de ne jamais s'être curé le nez au volant de son véhicule tous les troisièmes jeudis du mois entre 7h et 9h. Non mais franchement, c'est pas avec ça qu'on va relancer l'économie française. Ceci dit, en pleine crise de l'énergie, une usine à gaz, c'est peut-être ce qu'il y a de mieux.
Oui, merci monsieur le maire. François Villeroy de Gallo, vous allez donc quitter vos fonctions de gouverneur de la Banque de France dans les prochains jours.
Oui, écoutez, je quitte mon poste, c'est un véritable séisme, il n'y a qu'à voir les marchés qui s'effondrent, les bourses qui chutent, l'euro qui décroche. En fait, non, tout le monde s'en branle.
J'avoue, je me suis permis, on se demande à quoi vous servez.
Oh, mais écoutez, je ne sais pas moi-même. De toute façon, j'ai totalement l'habitude, je n'ai jamais été écouté, les ministres se sont succédés, j'étais totalement transparent, j'étais une sorte de caution, voire de potiche, on a toujours fait semblant de me consulter, mais j'avais bien conscience que je pissais dans un violon. Fut-il un Stradivarius, ça ne change rien. Non, rassurez-vous, je suis lucide sur ma fonction. Mon départ est tellement un non-événement que si vous ne m'aviez pas invité, je ne me serais même pas rendu compte que je partais.
Il vous restait normalement encore un an de mandat. C'est vous qui avez choisi de partir ?
Oui, vous appelez ça un mandat ? Moi, j'appelle ça de la présence. Non, c'était le moment était venu de passer la main. J'en avais plein le cul. D'autant qu'avec une économie française qui est à l'arrêt, un gouverneur qui s'appelle De Gallo, franchement, j'avais l'impression de ne plus être en phase avec ma fonction. Non. Le président choisira parmi trois candidats valables, trois candidats qui sont d'ailleurs taillés pour la fonction. J'aimerais d'ailleurs les citer et leur souhaiter bon courage. Il s'agit de Jean-Michel Surplace, Jean-Patrick Macharrière et Pierre-Emmanuel Récession. Oui. Moi, vous l'avez compris, je suis tout juste pour être un apprenti, fut-il un apprenti d'Auteuil.
Merci François Villeroy de Gallo. Tout de suite, on retrouve Pascal Praud, tiens, pour les titres de l'actualité.
Et oui, bonjour Apolline, les cadres sont de retour, on sent, il y avait du stagiaire la semaine dernière. Oui, tellement heureux, du pas payé bien sûr, là c'est beaucoup plus lourd en termes de budget, tellement heureux de vous retrouver chère Apolline. J'ose avouer que ça a été très très dur la semaine dernière avec votre remplaçant, comment s'appelle-t-il, votre remplaçant, Mathieu Béliard, bien sûr, Mathieu Béliard. Oui, moi je l'appelle le gauchiste chevelu.
Oh non.
Est-ce que vous avez déjà vu Mathieu Béliard sans son chouchou? C'est n'importe quoi. C'est Yvan Kassar. C'est à l'image de la présentation de sa matinale. Ça part dans tous les sens.
Non,
pardon. Mais pardon, mais on n'est pas Woodstock. Hein, bon, allez.
Vous voulez un truc cadré, quoi. Hein.
Voilà.
Alors, allez, les titres.
Passons à l'actu avec certains esprits pinailleurs, vous l'avez entendu, qui se moquent honteusement de Jordan Bardella qui a confondu. Oui, c'est vrai, il a confondu Iran, Irak dans son dernier discours. Pardon, mais c'est anecdotique. Tout ça, ça reste des musulmans. Oh. Et puis, il peut y avoir très bien deux Irak et deux Irans. Il y a déjà deux Siciles. Donc voilà, le débat est clos. Voilà, débat est clos.
Merci beaucoup, Pascal. Suite aux critiques du chancelier allemand sur la façon dont Donald Trump conduit les négociations sur l'Iran, ce dernier a décidé de retirer d'Allemagne plus de 5000 soldats américains. Et nous sommes avec Angela Merkel. Guten Tag.
Bonjour, Apolline von Malherbe. Permettez-moi de saluer François Filero de Gallo. Et j'ai envie de dire, mon François. Ah, les Bourgos. Si, je me souviendrai toujours de cette réunion des gouverneurs de la PCE à Francfort, où j'ai vu pour la première fois François. Et rien qu'à le voir, j'avais plus de papillons dans le ventre qu'après 8 chopes de bière cul sec à l'Octoberfest. Depuis, je collectionne toutes les pages sommo du Figaro où il y a la photo de François. Et puis, on nous aurait appelé, si on aurait fait un très beau couple avec François, on nous aurait appelé Villeroy et Bosch. Meilleur que les blagues de Neumann. Je m'attends à placer les bourrelets. Ça fait des vagues plus grosses qu'un tsunami.
Quand même, revenons au sujet. Le gouvernement allemand a demandé à Donald Trump de reconsidérer sa décision. Les Allemands ne croient pas à une défense européenne.
Mais la défense européenne. Mais c'est comme une France sans dette ou une France sans déficit. On en parle. Mais on la fera jamais. Ah, humour, parfois.
Vous n'avez pas besoin des Américains. Donc la France est un partenaire militaire solide quand même.
Ne me faites pas rigoler. Nous, les Allemands, on est bien placés pour savoir ce qu'elles font, l'armée française. Vous a explosé en 3 jours. Souvenez-vous. Et puis, soyez lucides. Regardez ce week-end. Vous avez une rêve partie chez vous, dans les chairs, et sur un terrain militaire. Vous n'avez pas été foutu de déloger quelques milliers de joueurs de Diabolo armés juste d'un petit pétard. Non, alors, j'imagine une invasion russe. Qu'est-ce que ce serait? Non, la meilleure tactique, c'est d'apprendre les mots proches d'Adi Yatstvayus. T'as noté, Alain Marshall? Oui, il est pour le Marshall. Et puis, en Russie, c'est que ça veut dire pitié, je me rends.
Oh non.
Et là, je me rends l'antenne à Marshall.
Merci Nicolas. Dès demain à 8h50 sur RMC et également au podcast. Alain Marchal est rentré dans ce studio. Salut Alain, les GG dans
Bonjour à tous, les grandes gueules, effectivement, en direct sur RMC jusqu'à midi. La free party géante dans le Cher. Est-ce que l'État a été humilié? Le Premier ministre Sébastien Lecornu qui demande à Total un plafond généreux des prix à la pompe. Est-ce que Total doit en faire plus? Jean-Luc Mélenchon, candidat pour la 4e fois à l'élection présidentielle. Est-ce que cette fois-ci c'est la bonne? La patronne des écologistes, Madame Tondelier, qui veut un congé payé climatique de 5 jours. Voilà des sujets sur lesquels réagiront les grandes gueules. Et puis nous recevrons, avec vous bien sûr, au 32-7. Et puis nous recevrons l'éditorialiste, journaliste Natacha Polony. Elle revient avec un livre sur la France corps et âme. La France et son patrimoine, la France et son agriculture, la France et son école, la France et sa langue. Il faut les sauver. Natacha Polony viendra s'en expliquer, donner tous ses arguments avec nos GG, avec nos grandes gueules. Et on vous attend bien sûr comme tous les jours, je vous le disais, au 32-16. À tout de suite.